Bonjour à tous et bienvenue autour de cette grande table. Aujourd'hui, consommer authentique et vivre bien. Après, la nature est un champ de bataille et c'est d'écologie politique. Il publie les besoins artificiels, comment sortir du consumérisme. Le sociologue Razmik Keshouyan nous rejoindra à partir de 12h55. Mais d'abord, un nom traverse les premières sélections des grands prix littéraires. Fémina, Renaudot, Goncourt, celui de Natacha Apana. Elle revient avec ses mots bleus et avec une femme phénix, héroïne de son nouveau roman Le ciel par-dessus le toit chez Gallimard. La romancière est notre invitée, à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur le fil de vos podcasts.
La grande table. Olivia Gesbert.
Qu'est-ce qui nous lie au-delà des drames? Comment faire famille quand les liens sont si fragiles? Que transmettre à ses enfants quand on vit sur les failles de son propre héritage familial? Bonjour Natacha Apana.
Bonjour Olivia Gesbert.
Pour y répondre, il faut comprendre ce qu'il y avait avant. Avant Phénix, Paloma et Lou, il y avait Eliette, et c'est avec elle que tout a commencé. Plutôt déraillé, divergé, alors que jusqu'à maintenant, la vie était comme elle est si souvent, ni extraordinaire, ni triste, de ces vies travailleuses, sans grande intelligence ni bêtise, de ces vies à chercher le mieux, le meilleur, mais pas trop quand même, on ne voudrait pas attirer le mauvais œil. Voilà pour le avant, tel que vous l'écrivez, tel que vous le décrivez, Natacha Apana. Pour commencer sur la forme, vous avez un art du titrage et du chapitrage assez incroyable. Vous multipliez dans ce livre les tableaux et vous nous baladez et vous baladez dans le temps. Comment vous avez pensé la construction de ce roman à trois voix?
À trois voix. J'avais d'abord une ambition d'écrire un texte frontal, j'appelais ça frontal dans mon cahier, sur l'enfermement. Et j'avais travaillé, j'avais lu, j'avais regardé tout ce qu'on peut travailler, lire et regarder autour de cette thématique-là. Et j'avais fait des demandes pour faire des stages d'observation en prison. Et j'ai été reçue à la maison d'arrêt de Caen. Et quand j'ai été reçue dans cette maison d'arrêt, à la première heure, je me suis rendu compte que jamais je ne pourrais écrire un texte comme cela, qu'il faut que j'écrive un texte sur l'avant, sur ce qu'on croit être le début, mais ce qui n'est pas. Et j'ai pensé à un récit qui serait éclaté, comme si, en explorant la vie, on l'explose. J'ai pensé à la mémoire de l'avant, à la mémoire émotionnelle de chaque personnage, à la mémoire un peu floue que laissent les années qui patinent les souvenirs, et c'est comme ça que je voulais raconter cette histoire.
Vous dites que vous avez demandé à vous rendre en prison, que vous vouliez à l'origine travailler sur cette question de l'enfermement, mais vous l'avez déjà ausculté ce thème à travers un livre, un roman, il y a 10 ans, Le Dernier Frère. Pourquoi cette envie d'y retourner?
Je voulais le faire de façon, comme je disais, plus frontale. Je voulais vraiment explorer ce que c'est qu'avoir 17 ans et être en prison. Mais malheureusement, le réel était trop épais pour que je puisse y accéder. Je sentais bien qu'il y avait là les limites de mon art, les limites de ma capacité d'incarner un autre. Mais surtout, dans ce lieu, il y avait le poids de l'absence. Il y avait ce creux, comme ça, comme le creux qui existe dans le jardin de Paloma et de Lou, un creux dont on ne voit pas le fond. Et c'est ce creux-là que j'avais envie de remplir de mots.
Mmh. Il est beau ce poème de Verlaine composé en prison auquel vous avez emprunté le titre de ce roman, Natacha Appanah, Le ciel est par-dessus le toit, si bleu, si calme. Vous en faites dire un à Lou, le fils aussi, alors écrou 16587, puisque le roman s'ouvre en prison, entre quatre murs. Je me tiens au centre de ce que je ne veux pas nommer. Si je dis le vrai nom des choses qui habitent ici, la beauté, la tendresse et l'imagination s'envolent à travers la fenêtre. Vous allez en prison, vous voulez commencer à imaginer ce que l'enfermement peut faire sur les corps et sur nos vies, et vous êtes rattrapée par la poésie. Comment est-ce possible ?
J'ai été surprise moi-même. Il faut imaginer, donc j'étais à la maison d'arrêt de Caen. C'est une maison d'arrêt, donc c'est pas une prison. Ce sont des gens qui sont prévenus, qui sont placés là. L'aile des mineurs est au premier étage. Elle est séparée de l'aile des majeurs par un filet. Les murs sont d'une couleur indéfinissable, comme s'il y avait eu là des années et des années d'émotions, de sentiments, de paroles et de cris. Et surtout, il y avait une contradiction permanente entre les adolescents qui étaient les jeunes majeurs, comme on les appelle, qui étaient là, et la façon dont ils se mouvaient dans les couloirs. Ils avaient toujours les yeux baissés. Il y avait une telle tristesse et il y avait une telle absence. Je sentais qu'il y avait l'absence de quelque chose et je me disais, mais où sont les mères, où sont les sœurs et comment on fait pour arriver là? Mais pas comment on fait de façon, quels sont les actes? Ça ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'est que comment on est élevé, comment on est aimé ou comment on n'est pas aimé pour arriver dans ce lieu-là.
Est-ce que ça dit quelque chose aussi de la place de la poésie dans votre vie à vous, Natacha Appanah?
Pour moi, la poésie sert très souvent à dire ce qui ne peut pas être dit, à attraper l'essence de quelque chose, à se rappeler d'un moment très précis de la vie, à se rappeler d'une émotion quand on ne sait pas dire le mot exact de cette émotion-là. Et la poésie dans ce lieu, évidemment, il fait penser à Verlaine, mais pour moi, le personnage de Lou ne résiste à ce lieu d'enfermement, à ce lieu d'empêchement, qu'avec la poésie. Qu'en examinant attentivement ce qu'il y a dehors, alors que lui, il est dedans.
D'ailleurs, c'est un roman qui se passe essentiellement dehors. Vous ouvrez effectivement sur la prison, mais très rapidement, on change complètement de décor et vous montrez aussi que l'enfermement peut se jouer à l'air libre. On peut être enfermé dans nos peurs, dans nos angoisses, dans notre passé, dans nos rêves aussi, parfois. Dans ce nouveau roman, Natacha Appanah, vous racontez la renaissance difficile d'une femme blessée et sa métamorphose, celle de la petite Eliette, enfant poupée, petite fille modèle, en phénix, femme tatouée, belle, trop belle, le visage d'un marbre de l'Antiquité, d'une beauté à la fois froide et sauvage. Mais vous nous dites pas dans quel recoin de votre imagination elle est née, cette femme phénix. Qui vous l'a inspirée? C'est parti d'une image, d'un fantasme, d'une envie?
Pour tout vous dire, je crois que je tourne autour de cette femme depuis plusieurs livres et que je n'avais pas les clés nécessaires, je n'avais peut-être pas l'audace nécessaire pour l'affronter. Je tourne toujours autour d'une femme qui serait empêchée, qui n'aurait pas la capacité d'aimer vraiment. Mais ce n'est que dans ce livre que je suis arrivée à la dire le plus justement possible, le plus sincèrement possible. Et je n'ai pu la dire qu'en la transformant de cette petite Eliette-là, de cette poupée, de cette Lolita, qu'en la transformant en phénix. Comme si, même dans mon imaginaire, même dans la façon dont je travaillais et que je l'incarnais, elle devait renaître de ses cendres.
Léonora Miano nous disait que l'héroïne de son Rouge Impératrice, son nouveau roman qui vient de paraître chez Grasset, que cette héroïne, c'est moi, c'est elle, qu'elle avait vraiment projeté tout ce qu'elle avait envie de projeter de son imaginaire dans cette femme-là, qu'elle avait d'ailleurs son âge, un peu son apparence, etc. Vous, quelle relation vous entretenez avec cette héroïne?
Oh.
Est-ce que c'est aussi une héroïne miroir?
Pas comme cela. Je dirais que ce qui la travaille me travaille aussi, parce que ce qui travaille Phénix, c'est constamment comment aimer ses enfants. Comment aimer ses enfants comme il souhaiterait être aimé. Et Phénix est le résultat d'un amour trop présent de ses parents. Et elle voudrait donner le contraire. En cela, elle me ressemble. Mais sinon, j'ai été curieuse de la suivre, de la voir se métamorphoser en cette femme distante, en cette beauté glaciale, en cette femme qui tatoue sa vie sur sa peau, parce qu'elle n'arrête pas d'essayer de faire de son enveloppe corporelle quelque chose qui n'appartienne qu'à elle et à elle seule.
Comment aimer ses enfants? Elle est cabossée par la vie, votre héroïne, et elle doit d'abord réapprendre à aimer, peut-être à s'aimer même. Lou, son fils, est un enfant lunaire, un peu perché dans les étoiles, attaché, très attaché à sa sœur. Paloma, l'aînée, est silencieuse, toujours sur la réserve. Comment aider des enfants à grandir sans confiance, sans un regard positif? Il semble qu'ils sont fragilisés. Écoutez sur ce rapport à l'enfance, sur cette question de la transmission, les mots de la psychologue et écrivaine Sarah Chiche. On la recevait dernièrement à l'occasion de la parution de son roman « Les Enténébrés ».
Pour reprendre l'expression de Marielle Massé dans la revue Critique, nous vivons dans un monde abîmé. Donc dans ce monde abîmé, quelles sont les cabanes psychiques, les cabanes de territoire? Devant le mal qui vient, quel bien est-il encore possible? Qu'est-ce que nous pouvons transmettre à nos enfants? Et je crois effectivement que la liberté d'aimer, y compris dans ses pointes parfois les plus excessives, est un des derniers bastions et un des derniers territoires d'insurrection possible. Alors l'amour entre les adultes, qu'on s'entend bien évidemment, mais aussi l'amour des enfants pour leurs parents et l'amour sauvage des mères pour leurs filles aussi, oui.
Nous vivons dans un monde abîmé, c'est un conte extrêmement contemporain aussi que vous avez écrit, Natacha Appana, sur ce monde, sur les effets de ce monde sur nos corps et nos personnalités, jusqu'à sur cette question de la transmission et l'amour qu'on peut porter à nos enfants.
Oui, je suis très travaillée par cela. Je suis très travaillée par la façon dont nous habitons le monde. De ces trois personnages, Eliette Phénix, je dirais, parce qu'elle s'appelait Eliette avant, Lou et Paloma, semblent tous les trois, à leur manière, extrêmement sensibles au monde, mais tout de même, ils ont cette incapacité à l'habiter correctement, cette incapacité à trouver une consolation dans ce monde-là. Phénix pense qu'elle le trouve. Elle pense qu'elle le trouve avec sa distance. Elle pense qu'elle le trouve avec sa manière d'être un peu brute, sa manière d'être parfois brutale. Paloma pense qu'elle le trouve avec sa façon d'être discrète, de regarder les fleurs, de regarder la vie qui se passe hors d'elle. Et Lou pense qu'il le trouve aussi en regardant un peu à côté des choses. Mais il y a comme un mensonge aujourd'hui, je crois, je ne sais pas si c'est à cause des écrans, je ne sais pas si c'est par la multiplicité des sollicitations. J'ai l'impression que tout le monde sait dire les choses. On a l'impression que tout le monde sait dire les choses et je crois que c'est pas vrai. Je crois que il est de plus en plus difficile de dire à quelqu'un qu'on l'aime, combien on l'aime et de quelle façon on l'aime. On a, pour nous aider, des milliers de smileys, mais là, j'ai l'impression que les mots nous échappent de plus en plus. D'ailleurs, dans ce livre, ils se parlent très peu. Ils ne savent pas comment parler. Et quand ils se retrouvent, souvent, ils ne se disent que leurs prénoms, parce que leurs prénoms sont gonflés d'amour, mais sont gonflés de toutes ces années d'absence.
Ça veut dire que vous-même, vous ne trouvez plus les mots. Ça ne devrait pas être le rôle de l'écrivain d'aider ses personnages à trouver les mots pour le dire.
J'essaye de le faire, mais je passe mon temps, si vous voulez, à essayer de trouver le mot juste, à essayer de traquer le mot en trop, le mot maquillage, le mot à tour. Je me dis que la littérature, elle n'est pas faite pour dire la vie comme on voudrait qu'elle soit. Elle est faite pour dire la vie comme elle est. Et parfois, le manque de mots, c'est également la vie, en tout cas la vie de Phénix et de Lou et de Paloma.
C'est assez beau finalement ce que dit aussi Sarah Chiche, qui va dans votre sens, cette liberté. On en a conquis beaucoup des libertés, mais aujourd'hui c'est finalement peut-être une des libertés les plus primaires qu'il nous revient de conquérir, cette liberté d'aimer qui devient un territoire de résistance. Il y a ce personnage de Phénix qui est Eliette quand elle est petite, personnage de petite fille modèle qui habite la littérature depuis longtemps, de Victor Hugo avec Cosette à Alice de Lewis Carroll, sans oublier, alors modèle ou pas, Sophie de la comtesse de Ségur. Il vous est arrivé, vous, de vous demander comment elles ont grandi, ces héroïnes, quelles femmes elles sont devenues?
Tout le temps, je me pose cette question-là. Comment leur enfance qu'on nous a décrite, comment elles s'en sont sorties, si je peux dire ça comme ça. Parce qu'il faut toujours sortir de son enfance. Il faut toujours faire sienne sa vie, finalement. Parce que l'enfance, Sarah Chiche dit quelque chose, elle parle des cabanes. Souvent, les cabanes de nos enfances sont des cabanes où l'imagination n'a pas de limite, où on s'envole, où on a des ailes, où on nage avec les dauphins. Dans la cabane d'Eliette, au contraire, elle est dans la vraie vie. Elle est telle qu'elle voudrait être, c'est-à-dire elle voudrait repeindre les murs en noir, elle casse tout, elle se débarrasse de son enveloppe. Et de ces cabanes-là, qu'elles soient des cabanes merveilleuses ou des cabanes terribles, il faut pouvoir en sortir.
On pense, en imaginant ce qu'était Eliette petite, à la fois au magnifique cliché de l'américaine Sally Mann, en noir et blanc, dont certains ont été exposés récemment au Jeu de Paume, de ses filles Jessie et Virginia et de son fils Emmett dans leur ferme. Il y a eu des controverses à propos de ces photos parce qu'elles sont parfois nues. Les enfants sur ces photos, comme Jessie aussi, qui une fois en robe blanche, a le regard lointain, la moue boudeuse avec cette cigarette à la main, alors qu'elle est encore toute jeune, on lui a reproché d'exhiber ses enfants, mais là, il y avait une intention qui était très saine finalement, et à la différence d'Eliette exhibée par ses parents dans votre roman, cette mise en scène de l'innocence de l'enfance au naturel d'une manière presque universelle est assez belle. Beaucoup moins belle en revanche ce qui est arrivé à Eva Ionesco. On pense aussi à elle à la lecture de votre livre. Irina Ionesco, sa mère qui était photographe, l'a photographiée nue en tenue suggestive, modèle pour Playboy à 11 ans. Eva Ionesco a fait plus tard un procès à sa mère et raconter cette enfance dans Innocence et dans un film, My Little Princess, ce que peut la fiction.
La distance était nécessaire pour raconter une fiction, un conte, parce que je voulais que ça soit avant tout un conte et non pas un documentaire. Et c'était une partie de ma vie qui effectivement était douloureuse, mais que j'ai eu envie de retranscrire sous cette forme, avec les archétypes du conte, avec la petite fille. J'avais envie que le spectateur se pose des questions, parce que c'était un sujet très assez ambigu, assez contraire, assez contradictoire et assez paradoxal sur plein de choses. Et donc, je ne voulais pas juger, mais poser des questions. Parce qu'il y a des questions qui se posent, c'est est-ce que tout est-il permis dans l'art? Jusqu'où une mère et une fille peuvent aller? Qu'est-ce qui est permis en matière de représentation? Qu'est-ce qu'on juge être de l'art? Qu'est-ce qu'on juge être la beauté? Est-ce que la beauté la remporte sur le fond humain? C'est vrai que la famille, c'est l'endroit où il peut se passer les choses les plus terribles. En fait, on est le moins protégé, après tout. Parce que les enfants sont petits, parce que, voilà, ils n'ont pas le droit à la parole, parce qu'ils sont cachés, parce que, voilà, c'est clos.
Voilà, c'est l'exemple d'une autre famille. C'est la contre-famille entre Sarah Chiche qui nous disait tout à l'heure que la famille est peut-être le lieu de résistance si l'on réapprend à aimer. Dans ces mots d'Eva Ionesco, on se rend compte que la famille, et c'est le cas de celle d'Eliette, votre héroïne Natacha Apana, peut être aussi un endroit où on est le moins protégé parce que c'est un lieu clos. La famille peut être le lieu d'une certaine impunité, hein.
Oui, et ça devient le lieu d'un enfermement, ça devient le lieu d'un empêchement, puisqu'Eliette... Enfin, je voudrais dire là, et c'est là tout, je crois, la complexité que peut rendre la fiction, c'est que ni le père d'Eliette, ni la mère d'Eliette ne pensent à mal. Tout ce qu'ils veulent, c'est rendre un peu au monde ce qu'ils ont obtenu. Parce que quand leur enfant, quand Eliette est née, elle est née si magnifique, si belle, si talentueuse, qu'ils ont eu l'impression d'avoir un cadeau, et c'est rendre un peu ce cadeau-là en la mettant en scène. Donc jamais, jamais ils ne pensent à mal. Mais comme parfois ce sont les parents qui connaissent le moins bien leur enfant, moins bien leur enfant que les autres, enfin apprennent tout en dernier, ils ne se rendent pas compte de la détresse dans laquelle se trouve Eliette, de la façon dont elle se sent dépossédée, non pas seulement de son enfance, mais dépossédée de son corps même. Et dans ce lieu qui devrait être, comme dit Sarah Chiche, un lieu de liberté, un lieu d'amour sauvage, et pour elle, un lieu où elle se sent restreinte, où elles se sont enfermées, elles se sont empêchées, elles se sont aussi obligées. Et c'est ça qui est le plus terrible, être obligée de faire ce qu'on ne veut pas faire.
Et Eliette, qui devient phénix par la suite, ne se rend pas compte de la détresse dans laquelle elle place elle aussi ses enfants. C'est une mère que ses enfants veulent fuir. Elle leur avait pourtant donné des griffes et des ailes, mais ça n'avait servi à rien, écrivez-vous. Pourquoi la malédiction se reproduit ?
C'est pas tant une malédiction, c'est un déterminisme auquel... Phénix veut échapper. C'est en voulant échapper à ce qu'elle a, elle, connu dans son enfance, qu'elle fait exactement le contraire. Elle se dit « Mes parents m'ont exposé, mes parents étaient toujours là, mes parents m'ont habillé, mes parents m'ont maquillé, mes parents m'ont fait chanter. Je vais faire exactement le contraire à mes enfants. Je vais leur laisser la liberté, je vais leur laisser la distance. Je ne vais jamais leur dire qu'ils sont beaux. Je ne vais jamais leur dire qu'ils chantent bien. » Et d'une certaine façon, je ne vais jamais leur dire que je les aime. Et cette distance-là est terrible pour ces enfants. En réalité, il nous faut plusieurs années pour tenter de réconcilier le déterminisme et le possible. Le déterminisme et la promesse. Et pour Eliette, il ne se passe qu'une génération, donc il ne faut pas trop lui en vouloir non plus.
Alors nous aussi, on va continuer à s'échapper, Natacha Apana, avec vous, et aller voir le ciel par-dessus le toit, pour reprendre le titre de votre roman, aller voir les étoiles, direction To the Stars.
Thank you.
To the Stars, le thème principal du compositeur Max Richter qui signe une partie de la bande originale de Ad Astra, le nouveau film de James Gray avec Brad Pitt en héros. Entre Odyssée spatiale et Quête de père au fin fond du système solaire, le film sort en salle aujourd'hui. Vous êtes, vous, originaire de l'île Maurice, Natacha Apana, quatre de votre premier roman, Les Rochers de Poudre d'Or. C'est à Mayotte que vous vous rendrez plus tard pour Tropique de la violence, paru en 2016, et multiprimé. Vous avez souvent réagi à la question de la langue, de la francophonie aussi. Je voulais vous poser une petite question qui s'est baladée dans l'actualité récemment. Quelle est pour vous, à vos yeux, que pensez-vous être la plus grande ville francophone du monde ?
La plus grande ville francophone du monde. Je ne sais pas, je dirais Paris.
Voilà, c'était Paris pendant longtemps, qui a été récemment déclassé. Ce n'est plus Paris, ce n'est plus Montréal non plus. Selon un nouveau classement, c'est Kinshasa en République démocratique du Congo. 12 millions d'habitants contre près de 11 millions pour l'agglomération parisienne. Le français est une langue archipel, dites-vous. Ce nouveau classement dit quelque chose de ça aussi.
Absolument.
Arrêtez de penser que voilà, le français, c'est la France, c'est Paris. Une langue archipel, est-ce que parfois, quand même, pour vous, ça a été aussi une langue qui vous assigne ?
Jamais. Jamais. Ça a toujours été, d'ailleurs, la poésie fait que cette langue ne m'assigne pas et ne m'assignera jamais parce qu'il y a tant de chemins à explorer encore. Non. Non, au contraire, c'est tout sauf ça, tout sauf un empêchement, tout sauf un enfermement.
Et c'est pour vous une langue plaisir, une langue gourmande ou une langue difficile parfois ? Vous parliez de la difficulté que vous aviez à trouver le bon mot, à réduire en permanence.
Mais je vous assure, c'est les trois à la fois, parce que si on veut toujours se renouveler dans une langue, il faut qu'elle soit un peu difficile, il faut qu'elle nous échappe un peu, il faut qu'on fasse aussi un effort pour aller jusqu'elle. Non seulement un effort pour aller jusqu'elle, mais un effort pour trouver comment les personnages, à un moment donné, dirait cette chose comme ça et pas autrement.
Alors c'est un roman en prose, mais extrêmement poétique. Vos mots sont très très beaux, Natacha Apana. Le ciel par-dessus le toit. Et votre nouveau roman, il vient de paraître chez Gallimard. Et on vous remercie beaucoup d'être venu nous en parler.
Merci à vous.
Merci.